De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, si la dernière fois nous étions à Cannes, cette fois-ci nous sommes de retour en studio. Voilà, et on va faire le bilan de cette 72e édition du Festival de Cannes avec notamment deux films qui étaient projetés, Marine.
Oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler de Sibylle, le nouveau film de Justine Triet avec Virginie Efira, qui était en compétition officielle, et de Rocketman, le biopic sur Elton John.
Et puis toi, Manu, pas du tout à Cannes.
Pas du tout à Cannes, non. Je vais vous parler donc d'un film qui s'appelle Une part d'ombre, un thriller hitchcockien, on va dire, et puis d'une reprise Divorce à l'italienne de Pietro Germi.
Et puis, on va tout de suite débuter avec, c'est un peu traditionnel dans cette émission, c'est un condensé de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. C'est un peu plus de 4 minutes et puis on se retrouve après.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes. Le
Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
Au Festival de Cannes, parfois la salle est tellement spectaculaire que le film lui-même s'arrête pour regarder.
Voici maintenant le jury du 72e Festival international du film de Cannes. Va-t-on les reconnaître après 60 films et 2 semaines de cinéma?
J'attendais ce moment avec impatience.
L'auteur de bande dessinée et cinéaste français Enki Bilal.
Je n'irai pas par 4 chemins, il faut que je vous avoue la vérité. Je suis très pressé.
La réalisatrice et scénariste américaine Kelly Reichardt.
Non, écoutez-moi, je suis sérieux.
Le réalisateur et producteur grec Yorgos Lanthimos. La réalisatrice et scénariste italienne Alice Schermerhacker. Le réalisateur français Robin Campillo. La réalisatrice et actrice burkinabé Maimouna Ndiaye. Le réalisateur et scénariste polonais Pavel Pavlikovski. L'actrice américaine Elle Fanning. Et le président du jury
Alejandro González Iñárritu.
Hein? La sélection cette année, comme vous le savez, était incroyable. Ça a été un vrai défi. On avait des réalisateurs iconiques, puissants, de nouvelles voix.
Je n'en crois rien.
Cette année, le jury a décidé de remettre une mention spéciale.
Mais qu'est-ce que ça signifie?
Le prix spécial ce soir est attribué à Elia Souleymane.
Thank you very much.
Merci. Merci beaucoup.
Très original.
Qui a remporté le prix du meilleur scénario?
Je tiens à avoir le scoop.
Céline Sciamma for Portrait Céline of Sciamma.
Moi qui allais mettre fin à ma carrière de scénariste.
Oh, votre scoop, ça a dû réchauffer.
Pouvez-vous nous dire qui est l'actrice que vous et votre jury avez choisi de distinguer ce soir?
Emily Beecham from Little Joe, directed by Jessica Hausner.
J'estime que le public a le droit de tout savoir, le meilleur et le pire.
J'ai reçu un coup de fil de Bertrand Fèvre, le producteur, ce matin, pour me dire qu'il fallait que je saute dans l'avion.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Monsieur le Président, à qui allez-vous donner le prix à la mise en scène?
Pierre and Luc Dardenne for The Young Amel.
Pierre Dardenne.
Ça manque de piquant, avouez, non?
Merci au jury pour cette récompense d'un film qu'on a voulu un hymne, une ode à la vie.
J'ai une sorte d'obsession.
Pouvez-vous nous dire à qui est attribué le prix du jury ce soir?
Je l'ai déjà dit, nous allons finir tout ça en duo.
Pour ce prix en particulier, il y a deux films récompensés.
Les Misérables from Ladji Lee. And Bacurau for Clever Mendoza, Filho and Giuliano Dornelles.
La situation est délicate.
Mon film Les Misérables parle des rapports entre différentes communautés dans ce territoire. Et en fait, le seul ennemi en commun qu'ils ont, c'est la misère. Enfin, le seul ennemi en commun qu'il y a entre ses habitants et les policiers, c'est la misère. Donc je vais dédier ce prix à tous les misérables de France et d'ailleurs.
Pensez-vous donc que je sois venu ici ce soir pour vous entendre dire ça?
Ça fait maintenant 20 ans que je viens au Festival de Cannes. C'est ma 20e année. Et tout au début, j'étais un journaliste.
Je ne t'offre que la vérité. Rien de plus.
Ça me fait bizarre de me retrouver maintenant ici de l'autre côté.
Je suis d'accord avec vous.
Le prix de l'interprétation masculine va à
Antonio Banderas, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.
Pas mal du tout.
si le personnage s'appelle Salvador Mayo, il ne fait de mystère pour personne que Salvador Mayo, c'est Pedro Almodovar.
Attendez une minute.
Qui remporte le Grand Prix?
Atlantic pour Matty Diop.
Dites-moi ce que vous voulez.
C'est une déclaration d'amour aussi à... aux rues de Dakar, ce film à Dakar, au Sénégal.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ceci.
Voici maintenant la Palme d'Or.
De pareilles occasions ne se présentent qu'une fois dans une vie.
Good evening, ladies and gentlemen.
Cette voix m'est familière.
Ça a été très démocratique et la décision que nous avons prise ensemble a été absolument unanime.
Encore un peu de patience.
La Palme d'Or revient à...
judicieux. Simple. Et logique.
Je suis désolé, je n'avais pas préparé de discours en français. Je ne m'imaginais pas un seul instant que j'emporterais la Palme d'Or.
Messieurs, je vous remercie, ce sera tout.
Alors, il y a trois caractéristiques quand même qui sautent aux yeux, hein, pour ce palmarès de ce 72e Festival de Cannes. C'est tout d'abord la présence de nombreux films politique. Alors tout d'abord la Palme d'Or, hein, Parasite de Bong Joon-ho, dont on parlera lors de la prochaine émission. Un grand écart dans le Séoul contemporain entre une famille pauvre qui vit dans les bas-fonds et une famille bourgeoise qui vit dans les hauteurs. Il y a le prix du jury avec Les Misérables de Lee Jae-in, bavure en banlieue française qui tourne mal. Il y a aussi alors ex aequo le film Bacurau des Brésiliens Juliano Dornel et Kleber Mendoza. Film de genre très enthousiasmant et cruel avec un petit village brésilien rayé de la carte dans lequel eh bien, les habitants vont s'organiser pour lutter contre des prédateurs blancs américains venus faire le carton, fusil mitrailleur en bandoulière. Il y a le Grand Prix Atlantique, hein, de Matty Diop qui nous renvoie au sort des migrants qui partent de Dakar. Il y a le prix de la mise en scène qui consacre une nouvelle fois, comme s'ils en avaient besoin, eh bien, les frères Dardenne pour le jeune Ahmed, dans lequel il est question du radicalisme religieux. Et même la mention spéciale, le film d'Elias Souleymane, It Must Be Heaven, nous renvoie au conflit israélo-palestinien. Il faut regarder le prix du scénario pour voir un film qui ne soit ni politique ni contemporain, mais une œuvre romantique. C'est celui de Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu, racontant une histoire touchante d'amour entre deux femmes. Alors ce qui frappe également, eh bien, c'est la présence du cinéma français, hein, dans ce palmarès. Déjà, il y a beaucoup de films sélectionnés, mais tout de même, trois films se retrouvent récompensés. It Must Be Heaven de Elias Souleymane, Céline Sciamma donc pour Un Portrait de la jeune fille en feu, et puis Les Misérables de Lee Jae-in. Et même si Atlantique de Matty Diop est estampillé sénégalais, je doute que l'argent qui a permis de produire ce film soit totalement africain. C'est une coproduction en fait sénégalaise. Gallo-franco-belge. Alors, on peut également noter que de nombreux films flirtaient avec le genre. Anticipation pour Little Joe de Jessica Hausner, l'histoire d'une plante qui vous aide à être heureux mais qui, en définitive, elle vient, vous transforme à sa guise. Le polar esthétique chinois de Diao Yinan, Le lac aux oies sauvages, ou encore Les siffleurs du roumain Corneliu Porumpoiu. Alors, il y a aussi deux films avec des zombies, Atlantique de Matty Diop et le film de Jim Jarmusch qui a ouvert la compétition. Et enfin, quatre films dans leur scénario eh bien, faisaient référence directement au cinéma. Douleur et gloire de Pedro Almodovar, Frankie de Irazax, alors là, qui n'aurait jamais dû être dans la compétition, c'est vraiment le film le plus raté du festival, Sibyl de Justine Triet, et bien sûr Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Le président du jury l'a noté, il y avait des grands réalisateurs, des pointures, Ken Loach, Terrence Malick, Quentin Tarantino, encore Jim Jarmusch, mais aussi des premiers films dont certains récompensés, et ça c'est assez étonnant, Lee Jae-in et Matty Diop hein, notamment, donc bon, c'est un festival riche, certains films sont déjà sortis, d'autres sortiront dans les semaines qui viennent. Alors au-delà de cette compétition officielle, d'autres prix tentent d'exister, il y en a une quinzaine hein, d'autres au travers de toutes les sélections. Il y a le Cannes Soundtrack Award qui a été remis à Alberto Iglesias pour Douleur et Gloire. Et le film de Pedro Almodovar aussi a eu la Queer Palm. Et ça n'étonnera personne que Terrence Malick remporte le prix du jury œcuménique avec Une vie cachée. Le prix du jury œcuménique est censé rassembler les différentes religions, enfin voilà, ou les différents esprits religieux, enfin si on veut. Et on termine avec le prix, dur à dire, Fipretschi. Précis, ou je ne sais plus comment on dit, et c'est celui de la critique internationale. Pour la compétition, c'est Elias Souleymane qui a été récompensé pour Un certain regard. C'est le film du russe Kantemir Balagov, Une grande fille. Et puis pour la quinzaine des réalisateurs, c'est le film de Lighthouse, un film en noir et blanc avec Willem Dafoe et Robert Pattinson que beaucoup de festivaliers ont cherché à voir. C'est des choses que j'ai entendues, mais quand passe Lighthouse, et finalement, eh bien, nous ne l'avons pas vu.
En effet.
Voilà. Allez. On va continuer avec Cannes, puisque c'était un film en compétition. Après le très remarqué Victoria, Justine Triet présentait donc Sibylle, son nouveau film, toujours avec Virginie Efira dans le rôle principal. Et ce sera l'occasion aussi eh bien, d'écouter la réalisatrice.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Sibylle, psychanalyste parisienne à la vie de famille rangée, décide un jour d'écrire un roman. Elle quitte pour cela la plupart de ses patients. Sauf une, Margot, comédienne désespérée, coincée sur un tournage de film entre le comédien qui est son amant, mais sort avec la réalisatrice, et la découverte de sa grossesse non désirée. Sibylle voit en la jeune femme une source d'inspiration pour son nouveau roman, et peu à peu, eh bien, elle contourne toutes les règles que la déontologie lui impose. Elle enregistre leurs séances, elle accepte, à la demande de sa patiente, de s'immiscer de plus en plus dans sa vie, au point même de devenir la conseillère sur le tournage de son film. Entre fascination mutuelle et manipulation, la relation des deux femmes devient de plus en plus trouble. Alors comme dans Victoria, son précédent film, qui fut également un tournant majeur dans la carrière de Virginie Efira, Justine Triet livre ici un portrait de femme fascinant qui dévoile ses fêlures au fur et à mesure, à la fois tragique et puis vaguement comique aussi, un peu. Virginie Efira est magistrale de bout en bout, elle est clairement l'atout majeur du film, elle qui est pourtant bien entourée puisqu'on retrouve autour d'elle Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Laure Calamy et Sandra Hüller, qu'on a découverte dans Tony Erdmann. Alors, il semble maintenant évident, vu la justesse et l'intensité de son jeu, que la carrière de Virginie Efira a amorcé un virage très réussi vers le cinéma d'auteur, elle qui fut pendant longtemps abonnée aux comédies populaires. Dans Sibylle, Justine Triet réussit à rester constamment à la lisière des genres. Son film n'est pas vraiment un drame, le comique de situation rappelle parfois son précédent film Victoria, et surtout, elle sait distiller une sorte d'angoisse diffuse tout au long du film, qui repose sur trois fois rien, sur des lumières, sur des regards. Il y a également un côté méta qui est très fort, un film dans le film, avec une réflexion sur le travail d'acteur et surtout sur le rapport réalisateur et comédien qui finalement ne repose sur rien d'autre que sur la manipulation. Et cette année, à Cannes, comme tu le disais tout à l'heure, Vincent, où le film est en compétition officielle, on a beaucoup filmé justement l'inspiration, le cinéma, la création. Et par ailleurs, Sibylle est truffée de références directes au cinéma. On tourne un film sous un soleil écrasant, comme dans Le Mépris. On reste bloqué sur une île italienne, comme dans L'Aventura. Et ces références d'étudiants en cinéma sont sans doute symptomatiques d'un film encore un peu trop sage, un peu trop bon élève, pour réellement signer l'avènement d'une grande cinéaste, même si je pense que Justine Triet en prend quand même largement le chemin en trois films. On va justement l'écouter en conférence de presse, donc c'était au Festival de Cannes.
Bonjour, je m'appelle Sibylle. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça.
Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez.
Et c'est un film qui parle de la fiction, de la création comme façon de se réinventer. Effectivement, c'est... le personnage de qu'incarne Virginie Efira est dans une espèce de déni de son passé, de déni de choses qu'elle n'arrive pas à affronter, de fantômes de son passé. Et en tout cas, la fiction est une façon pour elle d'échapper à son quotidien.
Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille.
On a tous un faible pour certains d'entre eux, non?
Arrête d'écrire sur elle.
J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède.
Il te manque?
L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui.
Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter.
Non, c'est impossible, ça.
Le film montre vraiment le croisement entre deux personnages qui sont totalement opposés. C'est-à-dire que pour moi, Virginie avance masquée les trois quarts du film et finalement finit par se dévoiler à la fin. Pour moi, le personnage de Margot fait exactement le trajet inverse. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir accès à elle dès le départ. Totalement, on a cette sensation de l'avoir à nu et finalement le personnage va au fur et à mesure du film apprendre les codes de la société, apprendre à faire avec ça. Donc il y a vraiment ce croisement entre ces deux personnages et cette idée que finalement il y a voilà, cette histoire qui est vraiment une histoire de codépendance, de fascination entre les deux et en même temps comme ça de croisement entre deux personnages qui vont pas dans les mêmes directions.
Faut que tu apprennes à manipuler ta mère, plus ça te servira pour plus tard. Parce que, tu sais, tu cumules deux choses avec elle. C'est ta mère et elle est psy.
Maman, j'ai peur de ne pas avoir les armes pour y arriver dans la vie.
Je pose des questions vraiment étranges pour son âge.
Le fait que Margot soit elle-même dans une forme de tragédie comme ça, en tournant ce mélo avec son mec, etc., c'est sûr que moi, je m'amuse de toutes ces choses-là et je pousse les curseurs un peu plus loin que c'est vrai que toute la première partie du film qui est un peu plus... premier degré, mental, etc. Donc il y avait cette volonté, je crois, dans l'écriture, d'avoir ce côté impur du film, et ce moment-là de décoller, de faire exploser le film à Stromboli avec peut-être un peu plus de satire, de s'amuser un peu de ça, de ce que c'est que de filmer un tournage. Dans le tournage, c'est quelque chose de évidemment très jubilatoire à écrire, et de m'amuser aussi de, voilà, de toutes ces scènes où Gaspard chante et où il fait son... Enfin, tout ça, oui, évidemment, les curseurs ont été poussés, quoi.
Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, sont très malheureux et ils n'arrivent jamais à guérir du malheur. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie.
Et puis, quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres.
C'était Justine Triet, donc, qui était présente à Cannes. C'était un extrait de la conférence de presse. Son film n'a eu absolument aucun prix, mais il est déjà dans les salles. Un autre film qui est déjà dans les salles, c'est Une part d'ombre de Samuel Tillman. David, père de famille, est-il le tueur ?
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
C'est une femme, une bijoutière, qui a été retrouvée morte à côté de sa voiture.
T'es soupçonné, David ?
Je sais pas, ils disent rien pour le moment. Vous me croyez pas, en fait. J'aurais dit tout ce que j'ai fait, donc à mon avis, quand ils auront tout contrôlé, ils me laisseront en paix.
Alors, premier long métrage d'un auteur venu du documentaire, hein, Une part d'ombre. Alors, s'empare en filigrane d'un sujet brûlant, en phase avec l'actualité. Alors, jamais il n'a paru aussi clair que les citoyens, hein, surtout connectés sur les réseaux sociaux, s'arrogeaient un peu le droit de se transformer en juges et bourreaux, laissant de côté, sans aucun complexe, la présomption d'innocence d'un individu suspecté. Alors, dans ce climat de suspicion et de lynchage psychologique, Samuel Tillman a imaginé une intrigue devant tout autant au Alfred Hitchcock qu'à Fritz Lang. C'est un peu soupçon qui rencontre furie. Alors, père de famille aimant, David, professeur en vacances, hein, se retrouve au cœur d'une sordide affaire de meurtre lorsque le corps d'une jeune femme est retrouvé proche du chalet qu'il loue avec des amis. Alors, de simple témoin, il devient le principal suspect sur le témoignage d'une personne l'ayant aperçu sur les lieux du crime. Accablé, David clame son innocence et se souvient d'un rôdeur lui ressemblant étrangement, traînant dans les parages. Mais les preuves s'accumulent contre lui, la rumeur circule, alors ses amis commencent à se méfier, ne sachant plus comment se comporter. Ou plutôt, ils agissent comme s'ils étaient coupables par leur attitude fuyante, leur regard réprobateur. Alors, l'étau se resserre d'autant que des éléments externes à l'affaire surgissent, jetant un trouble sur la personnalité de David. Alors, ce brave homme, hein, sans histoire, avait pour habitude de faire quelques escapades en Europe de l'Est pour tromper sa femme. Alors, de menteur à coupable, il n'y a qu'un pas. Sa femme finit aussi par douter, se demandant bien quel homme elle a épousé. Et la grande question, c'est « Mais qui est David ?»
L'enquête a été montée à charge contre toi.
Dis-le que c'est pas moi.
Regarde la réalité en face. On sait pas ce que la police a contre lui.
Faut plus parler à personne, faire profil bas.
Rentre chez toi. Rentre.
Toi, tu devrais arrêter d'aider David. Il est malade.
Il vous utilise pour vous faire croire qu'il a pas pu commettre le crime.
Tu penses que je suis coupable ?
S'il vous plaît, laissez-moi.
Alors, le sujet est passionnant, hein, et surtout traité avec intelligence durant une première partie tendue, rappelant le meilleur Chabrol, surtout dans le portrait cinglant d'une communauté hypocrite proche du suspect numéro 1. Alors, chacun s'approprie sans moindre recul l'histoire en réinterprétant la réalité. Un malaise s'installe, hein, d'autant que la part d'ombre de David gangrène le récit, laissant de moins en moins de place à son innocence. Alors, Une part d'ombre évite également les clichés inhérents du polar français lambda, en prenant le risque de filmer la police totalement hors champ. On ne verra pratiquement jamais un seul flic. La seule enquête à laquelle nous assistons est celle menée de front par David, personnage qui devient de plus en plus ambigu. Ce choix narratif de ne pas intégrer les forces de l'ordre dans la construction du récit se révèle payante durant sa première partie. Alors hélas, Une part d'ombre reste à la surface de son traitement, ne creuse jamais la psychologie tourmentée du personnage principal. Soit il est innocent et victime de l'atroce rumeur, soit il est coupable, et c'est une saloperie de manipulateur pervers. Le film ne dépasse jamais cette dualité. Dès lors que David joue les hypocrites, les apprentis détectives, le film devient poussif jusqu'au twist final consensuel et hypocrite, invalidant, on va dire, la charge féroce contre le comportement jugeant des individus. Sinon, la mise en scène, hein, c'est un peu une succession de champs contre champs, baignant dans une lumière terne, hein, l'épouse, on va dire, l'esthétique télévisuelle habituelle. Elle n'a rien d'indigne, et finalement, je vais peut-être retirer ce que je disais au départ, où le film est quand même très très loin de Hitchcock et Lang, malgré d'excellents interprètes.
Mais il s'en approche quand même. Enfin, voilà.
Voilà.
Il donne l'illusion de s'en approcher. Au moins, allez. On revient à Cannes avec un film présenté en séance hors compétition en présence d'Elton John, c'est Rocketman, son biopic.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Et comment est-ce qu'un petit gros sorti de nulle part peut devenir une star ?
Il faut tuer l'homme que tu devais être pour devenir l'homme que t'as toujours voulu être.
Je crois que je vais changer de nom et m'appeler Elton.
Après l'énorme succès de Bohemian Rhapsody, les producteurs ont décidé de battre le fer du biopic tant qu'il était encore chaud. Et voici donc Rocketman, le biopic sur la vie de Elton John, réalisé par le même réalisateur Dexter Fletcher. Alors l'histoire que les gens de ma génération ne connaissent pas forcément, hein, car contrairement à Freddie Mercury, il me semble que Elton John n'est pas une icône qui a vraiment traversé les époques, même si lui est encore vivant. L'histoire, c'est celle d'un petit garçon d'une banlieue anglaise, mal aimé par un père absent, rudoyé par une mère autoritaire, qui se découvre un talent certain pour le piano et un goût immodéré pour le rock'n'roll. On est alors dans les années 60. Tout va aller très vite pour Reginald Dwight, qui prend alors le pseudo de Elton John. Il trouve en la personne de Bernie Taupin le binôme idéal qui écrit les textes, et Elton, avec une inspiration quasi magique, met ses paroles en musique, les transformant mais alors instantanément en tube.
Montre-leur qui tu es.
Évite juste de te tuer avec la drogue.
Quel effet ça fait d'être une star ?
Ça va pas durer.
Alors profitons-en tant qu'on peut.
Si notre histoire c'est brute, tout s'arrêtera.
J'espère que tu te rends compte que tu choisis d'être seul pour toujours.
Tu voudrais pas te contenter de chanter sans ces accoutrements ridicules ?
Les gens ne payent pas pour voir Reggie Dwight, ils paient pour voir Elton John ! Quel petit garçon timide tu étais ! Regarde-toi maintenant !
Oui, managé donc par son amant et envoyé en tournée aux États-Unis, Elton John va se découvrir rapidement quelques addictions telles que l'alcool, la drogue, les médicaments, la nourriture, le sexe et le shopping compulsif, et qu'il va donc devoir combattre au risque de mettre sa carrière en péril. Alors le choix de l'acteur a été osé, hein, puisque c'est Taron Egerton, jeune acteur anglais qu'on a connu dans le film d'action Kingsman et qui avait déjà joué pour Dexter Fletcher dans Eddie the Eagle, qui endosse les costumes à paillettes et les lunettes discrètes de Elton John. On a l'heureuse surprise quand même de découvrir un film moins édulcoré que celui auquel on aurait pu s'attendre. C'était le reproche principal que je faisais, moi, à Bohemian Rhapsody, qui avait quand même réussi l'exploit de passer sous silence quasiment 10 ans d'addiction de Freddie Mercury. Ici, on ne lésine pas sur les tendances suicidaires du chanteur et sur ses multiples démons, et surtout, on ne survole pas son homosexualité comme s'il s'agissait d'un détail de l'histoire. Le film, fait assez rare pour un divertissement grand public, montre même une scène de sexe entre hommes, ce qui est quand même une avancée, assez satisfaisante. En revanche, la mise en scène de type comédie musicale évoque un vieux show ringard de Broadway. Il est un peu dommage, je trouve, que tous les plus grands tubes de Elton John soient réarrangés et en moins bien. Même si la performance de Taron Egerton, qui réinterprète lui-même tous les tubes de la star, est assez impressionnante. J'ai trouvé le film quand même trop lisse pour être vraiment enthousiasmant. Tous les personnages qui gravitent autour du héros sont d'un manichéisme à pleurer. La mère indigne, le manager diabolique, le bon pote fidèle. Et malgré la volonté de montrer les aspects sombres de la pop star, la mise en scène vient constamment rappeler qu'il était avant tout entouré de mauvaises personnes, une façon de légitimer et d'excuser ses faiblesses et ses abus. Alors le générique de fin qui aligne photos d'archives et moments du film pour bien montrer à quel point le réalisateur a collé à la réalité est assez insupportable, mais pas plus que les cartons annonçant que Elton John est toujours sobre depuis 28 ans, que dorénavant il se drogue à l'amour, qu'il a monté une fondation contre le sida, et que pour toutes ces raisons, vous feriez bien d'acheter le best-of qui va sûrement sortir comme par hasard dans les prochains jours.
C'est normal, il est producteur. Il Exactement. Est l'un des producteurs du film.
Ça se sent légèrement, j'ai envie de te dire.
Voilà, donc Rocketman, nouveau biopic qui dépassera peut-être Freddie Mercury.
En tout cas, je pense que ça sera clairement une pluie de distinction pour Taron Egerton, qui est vraiment, à mon sens, qui cabotine beaucoup moins que Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, qui est vraiment impressionnant.
Allez, on quitte l'actualité du cinéma pour revenir une ressortie.
Presque 60 ans en arrière.
Presque voilà. 60 ans, voilà.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Agramonte, berceau de ma famille, est une ville de 18 000 âmes. On y compte 4300 illettrés, 1700 chômeurs permanents et 24 églises, si j'ai bonne mémoire.
Alors, à la vision en fait de Divorce à l'italienne, hein, première comédie de Pietro Germi, hein, il ne faudrait pas se laisser distraire par nos convictions contemporaines en décalage avec ce qui est présenté à l'écran. Alors, on pourrait se retrouver à interpréter une idéologie qui n'est pas celle que déploie en réalité ce film trompeur, beaucoup plus subtil qu'il ne le laisse croire. Alors, le portrait dressé de l'épouse du baron, le personnage central du film que l'on vient d'entendre, s'avère des plus grossiers. Les scénaristes n'y vont pas avec le dos de la cuillère, dessinant sans nuance une silhouette envahissante et insupportable, affublée en plus d'un léger duvet en guise de moustache. Alors, une lecture primaire pourrait faire bondir les féministes. Il s'avère nécessaire de replacer le film dans son contexte, indispensable pour comprendre la teneur du propos qui peut sembler désuet. Alors, à l'aube des années 60, le divorce est le sujet tabou par excellence en Italie, plus que dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Pire, il n'est tout simplement pas autorisé par la loi, considéré alors comme un délit majeur. Alors, ce qui sert de prétexte au scénario délirant imaginé par le cinéaste lui-même, qui s'est adjoint les services d'Alfredo Giannetti et Ennio De Concini, déjà présents sur l'excellent Meurtre à l'italienne, polar dans lequel Pietro Germi s'était aussi donné le rôle principal. Le baron Ferdinando Cefalù, issu d'une famille, une vieille famille de l'aristocratie sicilienne, ne supporte plus la présence de sa femme Rosalia, qu'il juge stupide. Alors d'autant qu'il est tombé amoureux d'une nymphette, la délicieuse Angela, qui s'avère en plus être sa cousine. Alors ça, c'est l'ultime scandale. Non, c'est... Ironie de cette situation scabreuse, le divorce étant proscrit, en revanche, un article de loi invite à la clémence envers les meurtriers ayant tué leur conjoint pour sauver leur honneur. Alors, parce qu'être cocu en Italie, c'est très très mal vu, il vaut mieux assassiner sa femme ou son amant.
C'est à cette époque-là précisément qu'aux assises de Catane s'ouvrit le procès de notre concitoyenne Marianina Terranova, qui avait tué pour venger son honneur. Vous vous rappelez certainement l'énorme publicité que la presse régionale donna à cette affaire. La personnalité équivoque de la victime, Vito Caffiero, un étudiant de 24 ans. La silhouette pathétique de la pauvre meurtrière, Marianina Terranova, humble ménagère de 27 ans. Marianina avait tout bêtement pris un honnête petit train, et elle était allée décharger son revolver dans le corps du bien-aimé à la sortie d'un cinéma du centre de Catane. L'honneur sicilien avait trouvé son héroïne.
Alors dès lors, Ferdinando, avec toutes ces informations, il va échafauder un plan machiavélique, poussant sa femme dans les bras d'un artiste qu'il va faire venir chez lui pour quelques travaux complètement inutiles. Alors si la relation adultère est avérée, le baron pourra en toute légitimité assassiner sa femme. Alors cette idée quand même assez délirante, mais caractéristique de la comédie italienne, alors en plein âge d'or, on est au début des années 60, était à l'origine conçue pour être un drame social. Mais devant l'énormité des situations, Germi a orienté son film du côté du burlesque, laissant libre cours à son imagination débridée. Issu du néo-réalisme, il se glisse naturellement dans un genre a priori éloigné de son style, mais sa charge féroce contre les institutions en place est d'une redoutable efficacité. La farce ose se frotter avec le scabreux en présentant un quarantenaire tombant amoureux d'une adolescente de 16 ans, ce qui paraît assez impensable aujourd'hui, même si on a déjà vu ça dans Beau-père ou American Beauty. Le sujet, aussi pertinent soit-il, ne fait pas un film. Alors pour cela, il faut encore un regard, un cinéaste. Et Pietro Germi, fort de son expérience dans le documentaire, possède l'intelligence de prendre très au sérieux un genre qui l'est nettement moins. En voix off, le baron, dès les premiers plans, rappelle la situation sociale et économique du village sicilien, qui est peuplé d'analphabètes, d'églises, on l'entend au début. La diction, tout en ironie mordante d'un Mastroianni impérial, est un délice. Le comédien est prodigieux. Il affiche une posture de dandy à l'extérieur. Paradant avec son regard distancié, il est toujours sur son 31 avec un costume nickel. Alors cette manière outrancière de faire bonne figure est complètement mise à défaut dans l'intimité. Et là, il se transforme littéralement en un fou furieux quand il exécute son plan irrésistible. Il devient une vraie figure comique, sans jamais trop en faire. La schizophrénie du personnage est dessinée vraiment avec subtilité. La mise en scène de Germi, elle est au diapason, elle alterne, on va dire, le naturalisme social et puis une vision beaucoup plus audacieuse, esthétique, avec un très grand sens de la lumière, du montage, notamment dans tous les ressorts comiques. C'est vraiment, sur ce plan-là, excellent. Cette hybridation entre, on va dire, la forme réaliste et la sophistication stylistique s'intègre à merveille dans cette fable féroce du désamour marital, fustigeant les valeurs morales, les mœurs archaïques et l'hypocrisie d'une société, malgré tout, comme il le dit lui-même, le personnage, sur la voie du progrès. Donc, une œuvre assez remarquable, et toujours moderne, même, alors c'est de 61 et ça, 58 ans.
Et oui, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on entendait donc le baron.
C'est Marcello Mastroianni, oui.
Voilà.
Oui, c'est Marcello Mastroianni.
Ah oui, il l'a dit. Et pour faire un pont, avec Cannes, eh bien sa fille Chiara Mastroianni a remporté le prix d'interprétation à Un certain regard pour un film que je n'ai pas vu, mais toi tu l'as vu.
Oui, c'était pour Chambre 212, le nouveau film de Christophe Honoré, et je vous en parlerai. Il va sortir bientôt. En fait, il me semble que le distributeur a avancé justement suite à ce prix la sortie en salle du film. Et c'est un film plutôt réjouissant.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama.
C'est fini ?
Eh bien,
Oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp!
La semaine prochaine, eh bien, nous reviendrons à Cannes puisque nous parlerons de la Palme d'Or de Bong Joon-ho. Et puis, je parlerai aussi d'un film à sketch, Saut de Pauvre. Notamment.